cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Cécile Worms.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice fondatrice même de MCD, Musique et Culture Digitale, qui est un magazine, une revue même, comme on dit. En général, quand on dit le mot revue, il y a un côté plus prestigieux. C'est vrai que le joujou est assez beau, papier glacé, assez épais, avec des textes denses, une belle iconographie. Et donc ce magazine a été créé en 2003.
En janvier 2003. Ça fait presque 10 ans.
Donc je crois qu'il a un peu évolué, on va en parler, vous nous expliquerez ça en termes de politique éditoriale. Vous êtes également à la tête de Digital Arty, c'est comme ça qu'on dit ?
Tout à fait.
Voilà. Commençons par ça. Qu'est-ce que c'est que Digital Arty et quel est justement son rapport avec MCD ?
Alors, Digital Arty, c'est une société que j'ai cofondée il y a 3 ans qui couvre tous les domaines de l'art numérique et de l'innovation avec une partie éditoriale. Et ça, c'est le lien avec MCD. On a un magazine en ligne qui est trimestriel comme MCD, mais qui est téléchargeable gratuitement en format PDF ou alors qui est augmenté de vidéos par article et donc qu'on peut lire en ligne tout aussi gratuitement. Il est en français et en anglais. Et donc, la différence, c'est ça, c'est que Digital Arty, c'est un pure player. C'est vraiment, on est d'ailleurs reconnu comme organisme de presse en ligne, alors que MCD, c'est un modèle à l'ancienne, on va dire, qui est à la fois accessible en PDF, mais surtout distribué en papier.
On aurait été tenté d'ailleurs de se demander pourquoi en 2003, quand vous l'avez lancé, pourquoi ne pas avoir voulu jouer tout de suite la carte du pure player, justement ?
En fait, on est attaché au papier. On pense qu'il y a une complémentarité et pas une opposition entre papier et numérique. On ne sait pas d'ailleurs, quand on regarde le bilan carbone de nos consommations énergétiques sur ordinateur, qu'est-ce qui est le plus coûteux en termes d'arbres coupés ? Est-ce que c'est d'imprimer son PDF à la maison ou est-ce que c'est d'acheter un magazine en kiosque ? Donc, on pense que ces deux supports complémentaires. Et pour jouer encore plus la complémentarité, on a fait évoluer justement la formule de MCD. MCD, au départ, c'était vraiment musique et culture digitale. Donc, c'était moitié musique, musique électronique, électroacoustique. On ne fait pas de différence, nous, entre musique savante et musique dite populaire. Voilà. Et moitié art numérique. Et puis, quand j'ai co-fondé Digital Arty, on a fait évoluer MCD et on s'est dit on va faire une collection thématique. Donc on a changé complètement la ligne éditoriale, on est devenu bilingue et on est thématique. Donc on fait sur chaque sujet une sorte de panorama de ce qui se fait sur le domaine. Le dernier numéro, celui qui fêtera nos 10 ans, sera consacré à la musique. Pas que la musique électronique, mais la musique à l'heure du numérique. Comment on écoute, comment on partage, comment on fabrique de la musique, vous le savez autant que moi, on achetait d'abord des albums, puis on achète des titres, maintenant on arrive à acheter des pistes sur certains morceaux, donc c'est intéressant, on va regarder comment même on arrive à écouter de la musique ensemble, comment la musique sur les jeux vidéo a évolué pour devenir un des facteurs, une des composantes, on va dire, artistiques essentielles des jeux vidéo, la musique 8 bits, voilà, donc ça sera un numéro un peu le numéro de nos 10 ans.
On verra ça dans quelques mois. Alors avant d'arriver au 10 ans, on va peut-être revenir à la naissance, à l'accouchement. C'était quoi l'idée exactement derrière la tête? Comment est né MCD en janvier 2003? Donc quelle était l'idée précise? Est-ce qu'il y avait un modèle? Est-ce qu'il y avait un objectif en particulier?
Il y avait un objectif. J'avais cofondé une société qui était une start-up sur les musiques électroniques qui s'appelait Hypertunes en 2000, quoi, on va dire. On a eu un beau succès international et on a fait faillite au moment de la bulle financière. Et donc, avec un des membres de mon ancienne équipe, Laurent Diouf, qui est rédacteur en chef de MCD, on s'est dit on en a marre de vouloir gagner des millions, on va au moins faire ce qui nous intéresse, et on a créé cette association Musique et Culture Digitale avec l'idée de pas avoir de business model, mais de faire ce qui nous intéressait, c'est-à-dire de se faire le relais d'artistes dans les musiques et les arts numériques qui nous paraissent très importants à valoriser. Il y a très peu de médias indépendants qui font un travail critique sur les arts, on va dire, et les nouvelles technologies. Donc, dès le départ, la ligne éditoriale de MCD, c'était la défense des artistes qui travaillent, on va dire, sur ces domaines. Après, progressivement, on a suivi l'évolution des machines, et très vite, on s'est intéressé à tout ce qui était VJing, logiciel qui associe l'image et le son en temps réel. On s'est aperçu qu'il y avait réellement, aussi bien sur le plan technique que sur le plan artistique, des innovations dans le real time, quoi, dans le temps réel. Et c'est progressivement qu'on a suivi ces artistes et qu'on est arrivé vraiment à l'art numérique en soi, c'est-à-dire aux installations, ce qu'on appelle maintenant même le live cinéma. Après le VJing, il y a le live cinéma. Après le live cinéma, il y a le webjing. Il y a des artistes aujourd'hui qui mixent en temps réel à partir du net. Et donc, on a une nouvelle espèce, on va dire, qui est née et qui sont les widgets, les webjets. Donc, on s'intéresse aussi à toutes ces nouvelles formes d'art.
Comment, avant 2003, le numérique un peu a fait irruption dans votre vie? Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ça autre qu'en, j'allais dire, en spectateur ou en simple auditeur comme tout le monde?
J'avais des labels de musique électronique que j'ai cofondés, et j'ai habité à New York de 93 à 96, donc on remonte vraiment loin dans le temps, et l'internet est apparu en 94, donc tous les gens de ma génération ont l'habitude de dire qu'ils sont nés en 94. Pour moi, c'est très convenient, le numérique est ma date de naissance, en fait.
Et à quel moment, justement, on passe du côté, j'allais dire, musique, production, label, etc., à médias, critique de tout ce qui existe, analyse aussi, et d'essayer d'avoir une vision globale sur une famille, un art, quelque chose en pleine mutation, non seulement, c'est-à-dire que dans ses premières années, certes, de vie, mais aussi en mouvement permanent, comme d'ailleurs peut-être la politique éditoriale de votre revue l'a suivi.
Les musiques électroniques ont toujours eu un aspect global dès le départ. On dit d'ailleurs en France que c'est les seuls artistes qui s'exportent parce qu'il n'y a pas de parole, ce qui est vrai d'ailleurs. On a des très beaux exemples de réussite internationale de la musique électronique française.
Pierre Henry à Daft Punk, on peut prendre deux exemples.
Exactement, on a vraiment une belle légitimité. Mmh. Donc dès le départ, on avait envie, nous, de défendre les artistes français à l'international. Mais au-delà de ça, on vit dans un monde qui est fait de numérique au quotidien. On a tous des petits joujoux, que ça soit ordinateur, téléphone mobile, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment les artistes détournent ces technologies, créent des nouveaux usages, ont un regard critique. On le voit aujourd'hui avec les Anonymous, mais dès le départ du net, il y a eu un très fort mouvement activiste. Donc c'est un peu cette culture du libre qui nous a intéressés dès le départ. Libre, logiciel libre, le fait est que autant les artistes, on va dire, les peintres au Moyen-Âge avaient des ateliers et des gens qui travaillaient pour eux. Aujourd'hui, les collectifs d'artistes sont en fait des gens qui se mettent en réseau, et quand ils ont un problème technique, c'est le réseau qui leur apporte la solution. Donc c'est des vraies pratiques de partage des savoirs et de collaboration, c'est ça qui nous intéresse.
Vous avez dit au début, finalement, on n'était pas pure player, on avait le papier parce que c'est pas du tout antinomique. Est-ce que vous aviez des modèles, par exemple, de revues, autres que d'ailleurs dans le domaine dans lequel vous agissiez, qui vous servait un petit peu de référence par rapport à ce que vous vouliez faire?
On a deux références, Wire et Wired. Wire dans le papier et sur la qualité de l'éditorial sur le son, et Wired dans le papier et dans le modèle justement en ligne sur l'innovation. C'est un peu, on se situe entre Wire et Wired. On a cherché un nom, mais MCD, ça va.
Alors vous avez dit donc vous-même, c'est vrai que là, ça a un petit peu évolué, je crois que c'est vers 2006 à peu près.
On On a eu plusieurs évolutions. On était d'abord mensuel, après on est devenu bimestriel. Et effectivement, il y a 2 ans maintenant, on est passé trimestriel et thématique. On a eu de très beaux numéros thématiques qui sont d'ailleurs pour certains épuisés. On en a fait un sur le live AV, justement, le live audiovisuel. On en a fait un sur l'Internet des objets. Tous les objets qui ont des puces autour de vous. Bientôt, on sera entouré de 5 milliards d'objets qui vont communiquer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont se raconter. On a des numéros sur le jeu vidéo. On a eu un numéro sur l'Europe des Media Labs. On a fait le tour de l'Europe, de ces nouveaux lieux qui sont ni des universités, ni des centres de recherche, mais qu'on appelle des Media Labs. Enfin, il y a beaucoup de terminologie sur ces nouveaux labs. Et donc voilà, à chaque fois, on fait une sorte de panorama international sur un sujet. Le dernier numéro s'appelait Machine d'écriture. C'était un numéro sur justement nouvelles machines, nouvelles écritures. Comment on écrit aujourd'hui avec le réseau. Très intéressant, l'édition numérique, mais aussi les nouvelles écritures audiovisuelles, le webdoc, les nouvelles façons de raconter des histoires. Et le prochain, c'est un numéro sur, qui va s'appeler The Open Future, sur justement tous les artistes qui travaillent à partir des logiciels libres. Et là aussi, c'est un numéro, c'est toujours des numéros un peu denses. L'idée du papier, c'est de faire une collection durable. À l'inverse du net, où on fait des numéros vraiment très liés à l'actualité sur Digital Arti, qui sont vraiment avec des agendas, des news. Les numéros de MCD, c'est une sorte de collection qu'on peut garder, j'espère, pendant un certain nombre d'années, qui font un point, en tout cas, sur le présent et sur le futur de ces artistes et de ces thématiques.
Ça veut dire d'une certaine manière, vous vous rapprochez un petit peu philosophiquement de toutes ces revues qui sont nées depuis quelques années, que ça soit 21, enfin il y en a plein de belles revues justement qui pourraient essayer de contrer un petit peu le côté éphémère et de traitement de l'actualité dans l'instant du net. Offre des dossiers plus denses avec une belle iconographie, du beau papier, etc.
Tout à fait. On voit ça dans la musique, d'ailleurs, où les labels essayent de faire des beaux objets, des objets qu'on va garder, qu'on va offrir. C'est l'avantage, on va dire, de l'objet physique. Ceci dit, on distribue aussi MCD en PDF pour ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer de valises. Voilà, on est sur tablette, on est sur téléphone mobile, comme Digital Arti. On essaye quand même d'irriguer les différents supports.
Thank you.
Est-ce que votre bicéphalité, pour reprendre l'exemple que vous citiez entre Wire et Wire, donc avec une moitié musicale, a parfois été difficile à gérer sur la partie musicale, puisque effectivement, quand on traite d'autres thématiques, vous avez dit jeux vidéo, l'écriture, etc., on s'éloigne un peu quand même de la musique. Comment vous gérez ce côté un peu canal historique où vous venez effectivement, même vous, comme vous l'avez dit, à titre personnel, de la musique. Est-ce que progressivement, vous savez comment vous allez justement gérer, dealer avec cette...
Alors, on publie en ligne tout ce qui concerne la musique, notamment on fait des critiques de disques, des repérages discographiques, de nouveaux labels. On a une radio en ligne où on met justement des titres qu'on chronique. Donc, la partie musique est une partie qui restera en ligne, un des contenus majeurs du site de Musique et Culture Digitale. Sur ces numéros thématiques, c'est vrai qu'on a certains lecteurs qui nous ont dit pourquoi, même sur n'importe quelle thématique, vous ne faites pas quand même un cahier musique. C'est vrai qu'on va se rattraper avec ce numéro des 10 ans et après on va voir comment on va faire évoluer. Généralement, de toute façon, sur chacune des thématiques, on parle quand même de musiciens. Sur Live AV, c'était des musiciens qui associent l'image à leur création audio. Sur le logiciel libre, il y a toute une section sur la musique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en open source, sur Linux, qui ont... Voilà, donc il y aura toujours de toute façon certains articles qui vont traiter de la musique, mais sous un angle qui aura trait à la thématique du numéro.
Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous lancez une grande thématique de nouveaux numéros, il y a toujours un peu, d'une certaine manière, une remise en question ou une mise à plat de ce qu'est MCD et de vers quoi il veut aller par rapport justement à ces petites évolutions qu'il y a eu tout au long de la vie du magazine?
Non, on a trouvé maintenant notre axe. Oui, c'est ça. 4 numéros thématiques. On a déjà des thématiques jusqu'à...
2023.
Oui,
voilà.
C'est ça. Il y a énormément de sujets qui nous intéressent, des sujets transversaux. On va faire un numéro après celui sur la musique, sur la numérisation du monde. Comment le numérique a changé en profondeur notre façon de voir le monde. Donc là, ça sera plutôt philo-sociaux. Mais voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est d'explorer ce que le numérique, y compris dans les nouveaux usages qu'on en a au quotidien, va transformer. Et voilà, les artistes ont toujours quelque chose à apporter par rapport à ce regard et à ces nouveaux usages.
Vous avez un petit peu un profil type ou pas de à qui vous adressez, à qui vous adressez, votre lectorat, les gens que vous voulez toucher? Est-ce que ça dépend?
On a un lectorat qui n'est pas jeune, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas, alors je ne citerai pas d'autres titres de la presse musicale électro, mais on n'est pas sur un créneau clubber du tout, on est sur un créneau où nous-mêmes on est né avec la musique électronique, on a évolué avec et on a envie d'articles un peu de fond sur ces sujets-là. Donc on va dire que, sauf peut-être le numéro sur le jeu vidéo où le public a été vraiment rajeuni d'un coup sur ce numéro. Sur les autres thématiques, c'est vraiment 20-45. Urbain, consommateur de culture, amateur de nouvelles techno, c'est ça le public de MCD. Côté Digital Arty, on a quand même 65 000 abonnés à la newsletter qui reçoivent le magazine. Donc en gros, 20 000 en France, 45 000 en anglais, à l'international. Donc là, le public est beaucoup plus large.
Le fait justement d'avoir ouvert à l'international en proposant... une édition bilingue, c'est quelque chose qui était une évidence pour vous?
C'est quelque chose qui est lourd à porter pour une association comme la nôtre. Les frais de traduction, les frais de papier en plus. Donc, c'est un pari qu'on a fait parce que justement, on voulait être en collaboration et en complémentarité avec Digital Arty, qui, lui, est un vrai modèle à l'international. D'ailleurs, au départ, le I de Digital Arty voulait dire international. Maintenant, il veut dire innovation. Maintenant qu'on est déjà reconnu à l'international, on change le titre. Maintenant, c'est Digital Art et Innovation. Donc, c'était, en complémentarité avec Digital Arty qu'on a fait ce choix. C'est un choix très dépendant de la logique économique. Tant qu'on a des partenaires, on va maintenir la traduction sur le papier. Peut-être, si on a une logique économique plus rigoureuse, on basculera la traduction sur un modèle en ligne uniquement. Et on gardera pour le papier MCD francophone, parce que c'est très coûteux et on n'est pas, le marché publicitaire, nous on fait ça en interne, le démarchage, c'est chaque numéro, c'est un nouveau pari.
Est-ce que justement, comment a été perçu à l'étranger votre publication ?
Très bien, surtout depuis qu'on est thématique. Parce que les gens, en fait, du coup, découvrent un numéro parce que la thématique les intéresse. Et puis, ils voient le catalogue aussi. En dehors de la revue, on fait des bouquins. On vient de sortir un livre pour le Centre des Arts d'Anguin qui s'appelle « Art et culture numérique, panorama international ». C'est un livre assez conséquent. Donc, on vend aussi des livres. On fait un guide qui sortira à la rentrée avec le ministère de la Culture à destination des artistes français, qui est un guide des lieux et des ressources de la création artistique et numérique. Donc, si on cherche une résidence, si on cherche une coprod, si on cherche un lieu de diffusion, on va trouver dans ce guide une cartographie complète du plus petit lieu en campagne, on va dire, en zone rurale. Il y a beaucoup de lieux de résidence très intéressants, y compris sur le plateau des Mille Vaches et dans d'autres, on va dire, régions françaises, jusqu'à la scène nationale qui pourra vous financer et vous diffuser votre spectacle.
Justement, sur les coûts que vous évoquez, en soulignant que c'est un peu lourd, effectivement, à gérer, au-delà, effectivement, de la vente de la revue, comment vous arrivez à vous en sortir avec des partenaires?
On a des partenaires. On a des partenaires à l'année, heureusement, qui nous suivent depuis longtemps. Orange, par exemple, est un partenaire fidèle qui... En fait, demande à des rédacteurs de leur site, le collectif, de nous rédiger une page. Donc, c'est pas du publi rédactionnel, mais c'est une page financée par Orange, mais qui correspond à chaque thématique. Donc ça, c'est une aide très précieuse. Sinon, on a des annonceurs comme le GRM, qui sont des annonceurs depuis le début de MCD, voilà. Mmh. Et sur chaque numéro, on a aussi des festivals partenaires, des annonceurs privés. Ça dépend vraiment. On a fait un numéro, par exemple, qui s'appelait l'Internet de voix vert sur tout ce qui est écolo-techno, et là on a eu même des annonceurs dans les toilettes sèches, enfin voilà, donc ça va vraiment en fonction de la thématique du numéro, on va chercher tel ou tel annonceur plus précisément, mais c'est un travail de fourmi au quotidien.
Vous travaillez à peu près avec combien de pigistes, de journalistes, c'est de son équipe qui... J'imagine que ça dépend en fonction des numéros, peut-être.
Ouais, mais... c'est ça. On travaille aussi maintenant en invitant un rédacteur en chef invité selon les thématiques. On a travaillé deux fois avec Annick Rivoire de Poptronix et son équipe. Et là, on a une équipe élargie. Sinon, quand on fait la rédaction nous-mêmes et qu'on n'a pas de rédacteur chef invité, on a des collaborateurs réguliers, on en a 6 ou 7. Et après, on a des correspondants à l'internet.
Pour revenir sur cette particularité de l'âge de votre lectorat, vous disiez finalement on n'a pas un lectorat si jeune que ça. Est-ce que, sans vouloir faire de jeunisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie quand même de toucher un lectorat plus jeune, tout simplement parce que c'est un lectorat qui, justement, pour qui le papier est une sorte d'ovni finalement, et qui est né avec le numérique, et pour qui, justement, vous évoquiez tout à l'heure un numéro qui allait être consacré à comment le numérique est dans notre vie de tous les jours. Donc ces gens-là qui n'ont connu que ça, est-ce que c'est pas aussi un peu le but d'avoir leur point de vue et leur analyse de cette situation?
Le problème, c'est qu'on les touche plus avec Digital Artic que MCD. Ils n'achètent pas de papier. Enfin, donc avant qu'ils achètent du papier, il va vraiment falloir mettre des goodies à l'intérieur ou des choses qui les renvoient sur leur téléphone mobile. C'est vraiment ça le souci. Hein. On a pas envie de changer de ligne éditoriale pour toucher un public jeune, parce qu'on pense qu'on le touchera plus facilement avec un modèle plus pure player comme Digital Artic qu'un modèle papier.
Est-ce que les versions, justement, sur tablette, par exemple, qui peuvent se rapprocher peut-être un peu plus du papier, au sens où on peut avoir des dossiers plus longs avec une iconographie qui peut être aussi plus intéressante, peuvent être aussi un moyen de toucher ce lectorat peut-être plus difficile à acquérir?
On a envie d'avoir un modèle, comme on dit, transmédia, cross-média, enfin, on l'appelle comme on veut. Pour ça, il faudrait qu'on ait un éditeur, c'est-à-dire qu'on arrête d'être indépendant. On a envie de faire évoluer MCD dans un modèle, justement, vraiment innovant, en proposant justement des contenus, on va dire, multimédia avec chaque article, mais c'est très coûteux et c'est hors de portée pour notre fonctionnement actuel. Ceci dit, on a envie de faire évoluer le projet dans ce sens-là.
You're in a hotel, man. How did you even get here?
Alors parlez-nous un petit peu du numéro actuel, donc qui est juin, juillet, août, donc qui est consacré, qui est un guide, en fait, un guide international des festivals numériques d'aux quatre coins du monde.
C'est ça. Alors c'est notre, je crois, 5e édition du guide des festivals. Mmh. C'est un guide annuel, c'est-à-dire c'est pas seulement les festivals de l'été. On publie tous les feedbacks de tous les festivals où on a été dans l'année. Donc il y a beaucoup de contenu de reportages, d'interviews de directeurs de festivals. On met l'accent sur des initiatives qui sont comme celle des Nuits Sonores, le Labo Européen des Festivals. C'est-à-dire on essaye aussi de montrer que le festival est un objet économique qui irrigue vraiment pour une ville à l'échelle d'une région, qui dynamise vraiment à travers la culture tout un pan de l'économie des régions. Et on a effectivement des reportages très intéressants à l'international. La couverture du guide est un personnage énigmatique qui s'appelle Blue Rider, qu'on voit dans tous les festivals la nuit sur son cyclo avec un casque et une tenue qui c'est pas de la LED, c'est lumineux, c'est argenté. Il faudrait demander au créateur, mais dont je tairai le nom, puisque l'idée, c'est qu'il faut aller voir Blue Rider en ligne pour voir qui est ce personnage qui parcourt les festivals. Et là, on s'aperçoit aussi que le festival, c'est l'occasion de découvrir une ville. C'est pas juste on va dans un festival dans un endroit. Souvent, dans les festivals, on va d'un lieu à un autre dans une ville et on réenchante, en fait, le territoire urbain. Et donc, Blue Rider, c'est un peu une invitation à la découverte. C'est très intéressant de le retrouver. On l'a vu au Mapping à Genève, on l'a vu à Electra à Montréal. Je pense qu'on le verra dans les festivals parisiens de la rentrée. Il sera probablement à Scopitone à Nantes en septembre. Et pour nous, c'est un petit peu le symbole de ce guide des festivals. Alors, on répertorie maintenant plus de 400 festivals à l'international, art numérique, musique électronique, musique expérimentale. Donc, c'est un guide vraiment ciblé sur ce type de festival et c'est pas du tout un guide exhaustif sur l'ensemble des festivals rock. Ou il y a quelques festivals rock quand ils ont une programmation soit art numérique.
Comment vous avez vu durant ces presque 10 ans l'évolution des autres médias, de vos confrères ou concurrents? Vous avez dit au début on voulait être un petit peu un mélange entre Wired et The Wire. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous trouvez... Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a plein de sujets que vous traitez dans vos numéros qu'on va retrouver finalement comme des rubriques de plein de médias. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui vont être traités aussi bien par Le Monde ou Technicart ou je ne sais quel autre média. Tous les médias, maintenant, finalement, parlent du numérique, de l'art numérique, etc. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça qui se consacre exclusivement à ça. Comment vous avez vu l'évolution de cette presque décennie?
Ben justement, nous, on s'aperçoit qu'on est quasiment les seuls à faire des articles de fond sur ces sujets-là. Les titres que vous citez font des articles, c'est un petit peu toujours les mêmes. Et c'est souvent un survol, on va dire, alors je ne vais pas critiquer, mais c'est vrai qu'il y a très peu de numéros,
sujets de fond.
Donc nous, c'est notre spécificité, c'est ça qui nous intéresse et je pense que c'est ça aussi que les gens recherchent quand ils nous achètent. On s'est aperçu aussi qu'on était très utile aux artistes. Ils nous le disent. Ils nous disent, tiens, vous avez parlé de nous dans tel bouquin ou dans tel numéro. Grâce à ça, j'ai été programmée en Belgique. J'ai eu des contacts en Suisse. Le guide des festivals en particulier, pour un artiste qui a envie d'être programmé, on met tous les contacts des directeurs artistiques des festivals, c'est-à-dire leur email. Donc c'est aussi un objet utile quoi aux artistes. Donc ça, c'est un retour pour nous très important. C'est pas la cible uniquement, on est surtout sur ce guide, on est vraiment très grand public, hein. C'est pas des articles de fond, c'est des reportages à travers le monde, donc c'est un guide grand public, mais c'est aussi un guide utile aux artistes.
Quelles sont vos envies, vos projets, aussi bien avec Digital Artic qu'avec MCD? Donc vous avez dit que vous aviez déjà plein de thèmes dans la besace pour les mois, voire les années à venir. Est-ce qu'il y a d'autres envies qui sont...
Alors, je vais commencer sur MCD. Ouais. Parmi nos prochaines thématiques de 2013, il y en a deux qui vont nous tenir à cœur. À cœur ou à pic, ça me fait penser l'autre activité de MCD, on organise des ateliers pour les femmes de plus de 77 ans pour leur apprendre à produire du contenu multimédia sur Internet. On fait ça avec la particularité que c'est des artistes qui sont les formateurs de ces ateliers. Donc on emmène ces demoiselles dans des lieux de culture numérique, à la Gaîté Lyrique, à la Maison des Métallos. En région, c'est le centre Saint-Exupéry à Reims, le centre Bellegarde à Toulouse, la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Donc on les met dans un lieu accueillant, ouvert au public. C'est des artistes numériques qui leur apprennent à manier l'outil.
C'est pas des horribles informaticiens, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. On les oblige pas dans une salle de classe à manier voilà, l'ordinateur. Et c'est une aventure extraordinaire qu'on va prolonger en 2013. Et ça va donner lieu à une thématique assez intéressante pour MCD qui est l'art et le lien social. Comment l'artiste aujourd'hui reprend une place dans la société en transmettant justement sa façon d'utiliser les nouvelles technologies. On pense que si on confiait aux artistes un certain nombre d'ateliers de formation, soit vis-à-vis des jeunes, soit vis-à-vis des vieux, la fracture numérique, elle est partout. Hein. Nos ateliers sont gratuits. On donne accès à des ordinateurs, parfois à des femmes qui n'en ont jamais eu. On pense qu'il y aurait des expériences tout à fait intéressantes à mener et que les artistes ont une façon de transmettre complètement différente. Donc ça va être une des thématiques. Et l'autre thématique, qui sera plus d'ailleurs en lien avec Digital Artists, c'est les industries créatives. Comment l'artiste aujourd'hui pourrait collaborer avec des laboratoires et des entreprises pour, au lieu de parler de recherche et développement, parler de recherche et création et mettre, on va dire, en valeur le tissu français qu'on a, aussi bien universitaire que de labos de recherche, que d'entreprises innovantes, pour voilà, transformer un peu une certaine vision de la production. Il faut savoir que Digital Arty a pour spécificité de s'intéresser à tout ce qui est prototypage numérique. Avant, c'était les industriels qui avaient des machines, des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques et tout ça. Nous, dans le 10e arrondissement, on a créé un Art Lab, on a acheté des machines. On s'est endetté, parce que là, pour le coup, c'est une entreprise, donc on fonctionne vraiment avec un modèle différent de MCD. Et on a des artistes qui viennent en résidence pour faire voilà, des prototypes ou des œuvres qu'on va essayer de commercialiser par la suite. Le meilleur exemple que j'ai là, parce que c'est ce week-end que ça s'est passé, c'est un artiste qui s'appelle Antonin Fourneau, qui a d'ailleurs travaillé aussi bien des applications autour de la musique sur téléphone mobile que des prototypes innovants. Donc il a fabriqué dans notre Art Lab un mur avec des petites LED qui ont la particularité de s'allumer quand on jette de l'eau dessus. On a installé ça dans l'espace public de Poitiers et on a invité des graffeurs à venir avec des sprays d'eau du robinet. C'est du graphe propre et c'était une expérience incroyable. Un projet magnifique. Donc on pense qu'avec ces nouvelles machines il y a une sorte de démocratisation de la production. Vous pouvez avec une imprimante 3D faire tout ce que vous voulez comme objet chez vous. Il vous manque un cendrier, vous appuyez sur un bouton, 2 heures après vous avez un cendrier. Donc on travaille sur rendre accessibles ces nouvelles machines aux artistes et c'est la spécificité Digital Arty. On met les mains dans la prod, à l'inverse de MCD, où on est vraiment plutôt...
Analyse plus.
Voilà, médias et formation. Ouais.
Est-ce que justement, l'un nourrit l'autre, j'imagine, d'une certaine
Tout
manière.
Tout à fait, exactement. Exactement. Il y a une vraie complémentarité. Le gros avantage que j'ai trouvé avec Digital Arty, c'est un peu... ce que j'avais dans mon expérience de start-up auparavant, c'est-à-dire c'est un site communautaire. N'importe qui peut venir sur la plateforme, se créer son blog, poster du son, de la vidéo, et on a une énorme visibilité. On a déjà 1000 blogueurs de référence sur la plateforme, et l'idée, c'est que ce qu'on apporte aux gens qui s'ouvrent un compte, c'est à la fois un lien vers leur site, donc c'est du trafic et de la visibilité pour leur propre création, mais c'est aussi un espace communautaire où les gens y viennent et ils se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde sur l'art numérique ? Et d'un clic, on a la communauté, le magazine, le Art Lab. Donc on a vraiment une sorte de panorama en temps réel de ce qui se passe.
comment on fait pour que tout ça, toute cette communauté reste une communauté avec et pas une sorte de planète sans fin, d'univers, j'allais dire, sans fin, sans fond, où tout est égal à tout, tout se vaut tant qualitativement que quantitativement, etc.
Ben, la partie éditorialisée, c'est le magazine. La partie communauté, c'est tout le monde est bienvenu. C'est le dernier post qui s'affiche en homepage, c'est très démocratique. Il n'y a pas de
filtre.
Voilà, il n'y a pas de filtre. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a assez peu de gens qui font de la poterie et du macramé qui viennent s'inscrire.
Étonnamment. Non, mais, bah,
étonnamment. On aurait pu se dire, tiens, on va avoir beaucoup de gens à qui il va falloir écrire « désinscrivez-vous ». Et en fait, très naturellement, l'Internet fait son rôle de filtre naturel. Donc ça, c'est un processus naturel. Notre partie éditorialisée, c'est le magazine. C'est nous qui décidons de qui on va mettre en avant en termes artistiques, innovation. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne notre vie. On gagne notre vie avec Digital Arty en faisant des services pour les entreprises. On fait des expos clés en main, on fait des workshops dans le Art Lab, on fait voilà, et c'est vraiment c'est comme ça. On a des très belles réalisations. On vient d'installer dans le nouveau terminal de Roissy le 2E, une œuvre immersive de Miguel Chevalier. Donc quand vous descendez de l'avion, vous arrivez dans une sorte de pièce où tout est couvert, les murs sont couverts de fleurs interactives qui poussent en temps réel. Donc c'est intéressant pour nous de voir que même les aéroports de Paris aujourd'hui se mettent à l'art numérique.
Alors le mot arc est dans tout ce que vous faites. On sait que c'est un mot qui est toujours un peu chahuté dans les périodes de crise. C'est souvent celui en général qui boit la tasse en premier. On coupe les robinets, on coupe les budgets, on estime que c'est pas si essentiel que le reste. Comment on vit justement dans une période un peu agitée comme en ce moment, même si effectivement toute votre activité n'a que 10 ans, déjà c'était un petit peu instable on va dire. Mais est-ce qu'on le ressent dès qu'on doit faire des démarches, dès qu'on doit...
En fait, ce qu'on ressent, c'est que l'art a jamais été aussi important qu'en temps de crise. Donc, c'est paradoxal, mais ce qu'on ressent, c'est aussi que ça crée des nouvelles façons de travailler ensemble. Une expo qui aura été réalisée dans un lieu va tourner dans un autre lieu, puis dans un autre lieu, parce que l'économie sera renforcée et qu'on pourra justement programmer une expo plus importante si on crée dès le départ des collaborations et des futurs partenariats. Ça crée des relations entre artistes, des relations entre les lieux qui n'auraient pas été possibles sans la crise. Alors c'est à l'inverse très difficile pour les lieux et pour les artistes aujourd'hui de produire, mais ça l'a toujours été. Le fait de produire pour un artiste n'est pas forcément au départ lié à l'économie qui va en tirer. On le voit dans la musique en particulier, sinon on n'aurait plus de musiciens aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment deux façons de voir la crise. C'est à la fois porteur de nouvelles collaborations.
Donc vous qui étiez plongé dans la musique via des labels et autres quelques années, quel mélomane vous êtes aujourd'hui? Vous écoutez quoi? Comment vous consommez, pour utiliser un mot moche, la musique?
Alors je consomme la musique très curieusement par mon relationnel qui me dit tiens écoute ça, écoute ça. Donc c'est parce que j'ai plus le temps effectivement de sortir comme avant, ou quand je sors surtout dans des endroits où la musique est un des facteurs on va dire de l'œuvre, mais pas forcément l'œuvre en elle-même. Par contre il y a des festivals où j'ai eu des vraies découvertes, le festival Nemo par exemple, qui était un des festivals avant vraiment consacré plutôt à la diffusion d'œuvres de films, de courts-métrages, et pas c'est vraiment dans la dimension performance. Et là, on voit des artistes exceptionnels. J'ai un petit faible aussi pour le festival Présence électronique, qui est un mélange des genres. Le directeur Christian Zanesi est vraiment ce qu'on appelle un passeur, c'est-à-dire il peut aussi bien s'extasier devant un jeune qui va faire une musique un petit peu... on va dire surprenante pour essayer de trouver un qualificatif. Et puis à côté, on va entendre des œuvres majeures d'électroacoustique. Donc j'aime bien ces endroits-là. Il y a maintenant un festival aussi à Genève qui s'appelle Electron. peut-être vous connaissez le nom d'artiste de Jérôme Soudan qui s'appelle Mimétique, qui est un des artistes aussi pionniers. Et là aussi, on a des découvertes. Moi, je suis en tout cas, mes goûts personnels remontent aux origines de la musique électronique. Donc, j'aime bien les grosses basses, j'aime bien les musiques vraiment qui physiquement me font ressentir quelque chose. Je ne suis pas tellement dans les musiques trop douces.
Est-ce que justement le fait d'avoir lancé une édition bilingue et effectivement le potentiel international de tous ces sujets, c'est aussi un moyen de développement global? Si on prend par exemple certains festivals comme 1.0 qui se passaient dans certaines villes, qui changeaient de ville à chaque fois, est-ce qu'il y a aussi du potentiel par rapport à votre publication aux quatre coins du monde, même si effectivement il y a l'aspect économique que vous avez évoqué qui n'est pas si évident?
Alors, il y a deux façons de voir une publication aux quatre coins du monde. Il y a une façon où on localise la publication, c'est-à-dire on trouve vraiment une équipe sur place. Et là, je dirais, c'est plus le futur modèle de Digital Arty, d'être votre magazine plutôt que le magazine. Voilà, donc ça, c'est une évolution assez coûteuse aussi en termes d'implantation, régionale. Il faut qu'on monte un projet européen. Ensuite, il faut peut-être ouvrir un bureau aux États-Unis. Ça, c'est mon objectif quand même, parce que ça me ramènerait justement à mes premières amours. Ouais, New York, c'est la future patrie des new media. Autant la Californie, c'est pour l'innovation, autant vraiment sur le contenu. New York reste pour moi une ville incontournable. Mais sinon, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a un distributeur à l'international qui nous distribue dans certains points de distribution. Et puis, on essaye à travers le net là, de faire un travail de community management pour se faire connaître. Quoi.
Bien. Bien, Cécile Worms, merci. Donc, je rappelle que Musique et Culture Digitale, MCD, le numéro 67 de juin, juillet, août, consacré, donc, qui est un guide international, le guide que vous faites chaque année, international des festivals numériques, est donc disponible. Voilà. Et donc, on vous souhaite peut-être pas bon anniversaire, bon 10 ans, avec un peu d'avance, on vous recevra peut-être à nouveau à ce moment-là. Merci Anne-Cécile Worms.
Merci beaucoup.
Thank you.
cobas.com. Rencontre par Marc Zisman.